Bonjour Lambert Navarro.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
À la une de la presse hebdomadaire et magazine, la mobilisation plus forte et la violence plus faible des Gilets jaunes.
Pour leur 9e samedi consécutif de mobilisation hier en France, les Gilets jaunes, de l'aveu même du ministère de l'Intérieur, étaient nettement plus nombreux que la semaine dernière, 84 000. Et contrairement aux alarmantes prévisions officielles, les violences hier étaient en baisse, admettent en cœur le Journal du Dimanche et le Parisien Dimanche, avec, pour la première fois dans les cortèges, l'apparition de services d'ordre, souligne ce dernier journal, lequel se demande si l'on a assisté hier à un tournant dans le mouvement des Gilets jaunes à la veille du grand débat lancé par le gouvernement.
Et dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon est ce matin à la une.
À la une du JDD qui pointe ce que cet hebdomadaire appelle la dérive du chef de la France insoumise, en soulignant l'existence d'intersections entre ce parti et le Rassemblement national de Marine Le Pen, telle que la sortie de l'Europe présentée comme une solution, l'admiration revendiquée pour la Russie de Poutine, la détestation radicale des médias, déplore le Journal du Dimanche. Selon un sondage IFOP pour ce même hebdomadaire, 82% des Français jugent non souhaitable une alliance entre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national de Marine Le Pen et le mouvement des Gilets jaunes, alliance que 20% des sondés estiment probable, dans un scénario à l'italienne en référence à la convergence entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles qui ont formé un gouvernement d'union et qui dirige l'Italie.
Convergence entrevue cette semaine par Marine Le Pen à la lumière de cette crise des Gilets jaunes.
La présidente du Rassemblement national le souligne dans un entretien à Valeurs Actuelles. Incontestablement, les Gilets jaunes ont souligné certaines convergences entre son parti et celui de Jean-Luc Mélenchon, dit-elle à ce magazine. Les yeux fixés sur les élections européennes de mai prochain, Marine Le Pen y dit n'avoir aucune raison de douter, en soulignant ce qu'elle appelle l'affaiblissement d'Emmanuel Macron. Du quinquennat du président, Marine Le Pen pense qu'il est terminé, que la fracture est acquise, profonde, elle la pense même inguérissable, dit-elle donc à Valeurs Actuelles.
Et cette semaine, Norbert, on en apprend un peu plus sur le voyage effectué au Tchad par Alexandre Benalla, avec un de ses passeports diplomatiques devant lui. Idriss Déby s'est lâché.
C'est l'hebdomadaire Marianne qui raconte la scène. À l'issue de l'audience accordée par le président tchadien à l'ex-chargé de mission de l'Élysée, qui accompagnait ce jour-là à N'Djamena un homme d'affaires israélien, Idriss Déby aurait interpellé le déjà célèbre Alexandre Benalla en ces termes, je cite « Alors, t'as fait le voyou ?» Puis le chef de l'État tchadien aurait pourfendu la politique africaine de la France avec en ligne de mire Franck Paris, 40 ans, le monsieur Afrique de la présidence française, énonce ce journal. Dans les semaines qui suivent, plusieurs chefs d'État africains apprennent que Macron a passé une énorme soufflante à sa cellule Afrique, complète Marianne, étant précisé que le mot soufflante en argot équivaut peu ou prou au mot gifle, au sens figuré, bien sûr. Marianne rapporte encore qu'Alexandre Benalla répète souvent que le vrai président de la France, c'est Colère, le secrétaire général de l'Élysée.
Oui, il faut préciser que gifle dans le contexte d'Alexandre Benalla était cette fois au figuré, effectivement. Allez, c'est dimanche, prenons enfin le temps de raconter ce vrai micmac dans le business feutré de l'art. Une famille russe et l'État en France se font la guerre au sujet d'une statue de Brancusi, c'est ça comme ça qu'on dit?
Absolument.
Une statue qui orne une tombe au cimetière Montparnasse à Paris.
C'est le magazine L'Express qui raconte cette affaire, intitulée Le Baiser. Cette statue de 90 cm de haut perche sur la tombe d'une certaine Tatiana Rachemskaya, jeune russe qui s'est donné la mort à Paris en 1910. Pour orner sa tombe au cimetière Montparnasse, sa famille, alors, avait commandé la dite statue à un sculpteur roumain pas encore connu, un certain Constantin Brancusi. Plus d'un siècle durant, cette statue, payée 200 francs de l'époque, mais aujourd'hui estimée à quelque 40 millions d'euros, allait, dans l'indifférence générale, trôner sur la tombe de la jeune suicidée. Seulement voilà, en 2005, chez Christie's à New York, un marbre de Brancusi allait se négocier à près de 30 millions d'euros, rapporte cet hebdomadaire. Étrange coïncidence, remarque l'Express. Cette même année, 6 inconnus venus de pays de l'Est font valoir auprès de la ville de Paris leur droit de propriété sur la tombe de Tatiana Rachevskaya. Ils sont tous descendants de la jeune Russe, laquelle bénéficie d'une concession perpétuelle au cimetière Montparnasse. En clair, ils sont propriétaires de la tombe, donc du baiser. L'année suivante, le ministère de la Culture classait le baiser trésor national. 4 ans plus tard, la totalité de la tombe était inscrite au registre des monuments historiques, rapporte encore l'Express. Depuis, la statue a été enchâssée dans une caisse en bois, surveillée par 3 discrètes caméras et protégée par une alarme, en attendant la suite de ce bras de fer judiciaire. Comme le remarque l'Express, Constantin Brancusi, lui, est installé aux premières loges pour suivre les rebondissements de cette affaire. Sa sépulture ne repose qu'à quelques dizaines de mètres de celle de Tatiana Rachevskaya, sous une simple dalle, sans stèle, sans sculpture et sans caisse de bois.
Merci beaucoup Norbert Navarro pour la revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour la une de Jeune Afrique.
À tout à l'heure.